Que se passe-t-il à l'hôpital de Gap? Pourquoi la réintégration d'un praticien peut mettre à mal la continuité des soins sur l'établissement et plus largement impacter ceux de Sisteron et d'Embrun? Voilà des questions maintes fois posées à notre rédaction par les auditeurs. Et pour tout vous dire, nous aussi, nous nous sommes posé ces mêmes questions. Un praticien semble s'être lancé depuis 2016 dans une chasse à l'homme au sein de l'hôpital, mis sur le banc de touche pendant plusieurs années par la direction, après un rapport de l'ARS disant clairement qu'il est à l'origine d'un climat délétère. Le docteur Raouf Amami a depuis été réintégré dans ses fonctions, depuis mars, car il a obtenu le titre de lanceur d'alerte par le défenseur des droits dans l'affaire de la cimentoplastie discale, lui donnant ainsi une immunité. C'est lui qui avait dénoncé cette méthode pratiquée par son confrère, le docteur Gilles Norotte. Son retour en mars a été synonyme de démission et d'arrêt maladie en cascade. De mobilisation également de la part de personnalités politiques comme le conseiller départemental Guy Blanc qui lui demande clairement l'écartement de ce praticien de l'hôpital, mais aussi la mobilisation d'un collectif. Nos invités de ce matin en font partie. Je vous laisse vous présenter, messieurs.
Jérôme Adjé, je suis chirurgien viscéral. J'ai été chef de service pendant de très nombreuses années. Je suis démissionnaire. Donc, j'ai été chef de service de chirurgie viscérale et également du service de chirurgie ambulatoire. Je suis praticien hospitalier depuis 24 ans à l'hôpital de Gap.
Pierre-Yvan Simonoviez, je suis anesthésiste réanimateur, chef de service d'anesthésie et de réanimation, démissionnaire aussi. Directeur médical de la crise Covid actuellement, que j'ai gardé vu que c'est un petit peu aigu en ce moment, et président de la commission d'activité libérale de l'hôpital et démissionnaire aussi.
Au sein du CHICAS, quelle est la situation? Quel est le quotidien?
Il est compliqué pour tous les personnels soignants et pour une grande partie de l'hôpital du fait de tensions internes liées au retour du docteur Amami dans l'établissement.
On a du mal quand même à saisir, pour rappeler, c'est un conflit entre deux praticiens qui a éclaté, qui a maintenant gangrène tout l'hôpital. Comment c'est possible?
Plus que ça, c'est un conflit entre un praticien, le docteur Amami, et l'ensemble de l'équipe d'orthopédie et au-delà d'une grande partie de la communauté médicale.
Ça n'est pas Amami contre Norotte?
Non, ce n'est pas Amami contre Norotte, c'est Amami contre beaucoup d'autres personnes. Ça s'est effectivement cristallisé, acutisé avec le docteur Norotte. C'est pas ça qui pose problème. C'est pas cette partie-là du conflit qui pose problème. C'est vraiment le retour du docteur Amami qui pose problème à l'hôpital.
Mais quel est le problème avec le docteur Amami? Tout cela, ça a démarré bien avant. En 2016, déjà, on commence à en parler.
C'est ça. En fait, les conflits au sein du service d'orthopédie, ils sont antérieurs à l'affaire de la cimentoplastie. Effectivement, en 2016, ça s'est acutisé. Avec un praticien donc qui était le docteur Amami, à qui on a demandé d'augmenter son activité, en particulier pour la prise en charge des urgences hivernales, alors que ses autres confrères avaient beaucoup d'activités programmées et que lui en avait moins. De ce petit conflit au départ, il y a eu une explosion progressive des difficultés qui ont embarqué dans le conflit au départ toute l'équipe d'orthopédie, puis la direction de l'hôpital, puis les représentants de la commission médicale établissement, c'est-à-dire pratiquement l'ensemble des médecins, qui ont cherché par tous les moyens à régler cette problématique en interne. Mais le docteur Amami a toujours tout fait pour que, tant qu'il n'y avait pas de sanctions contre son collègue, il continuait à amplifier le conflit.
Qu'on soit bien clair, cette technique de cimentoplastie discale, elle a été pratiquée lorsque le docteur Amami était lui-même chef de service.
Bien sûr, oui, il était chef de service, il était bien au courant de cette technique, puisqu'elle avait été présentée en staff du service d'orthopédie. C'est vraiment quelque chose qui a été monté en épingle du fait d'un conflit, par vengeance, par
acharnement. C'est le terme qui est employé dans le rapport d'inspection du service de la chirurgie orthopédique. C'était en 2019 que ce rapport a été publié. Le conflit est clair. Ce qui est mis en avant, donc, c'est toujours la sous-activité du docteur Amami, ce que vous disiez. Et on évoque un acharnement, je cite, des plaintes diffamatoires, la fouille des dossiers du docteur Norotte pour chercher des fautes, jusqu'à ce qu'on emmène en fait la procédure plus loin avec un courrier au procureur, alors que jusque-là, aucun usager n'avait déposé plainte.
Exactement, et cette mission de l'ARS a été demandée par l'hôpital du fait de l'importance des conflits entre les praticiens. C'est en grande partie ce rapport qui a été à l'origine de la suspension du docteur Amami, qui a vraiment soulagé l'équipe d'orthopédie, soulagé l'hôpital, et qui a permis, pendant toute la période où il était suspendu, de fonctionner normalement.
Mais comment c'est possible? Parce que dans ce rapport, et toujours je le cite, on parle d'atteinte psychologique. Comment c'est possible qu'un praticien, le malaise autour d'un praticien, aille créer autant de malaise dans tous les services?
Quand on a un conflit entre des personnes, et surtout quand on est médecin, normalement on doit être en capacité de discuter et de trouver des solutions. Et là, en fait, on a affaire à une personne qui, quelles que soient les solutions proposées, ne déroge pas à sa grande règle d'aller jusqu'au bout pour obtenir une sanction contre son confrère. C'est-à-dire qu'on a bien vu dès le départ que c'était le but final de tout ça était simplement d'obtenir une sanction contre un et deux au départ et un après, surtout le docteur Neurot, de ses collègues. Quand on travaille en voyant que, quelles que soient les solutions proposées, en fait, ça fait que s'acutiser, eh bien, en fait, on se retrouve à un moment un petit peu dans le désarroi. Ce désarroi, on en fait appel à nos tutelles. Donc, on a fait appel d'abord à la première tutelle par l'intermédiaire de la direction qui était l'ARS, qui a envoyé une mission d'inspection, qui a, elle aussi, constaté qu'il y avait une expression tout à fait anormale du docteur Amami sur l'ensemble des équipes médicales pour obtenir une réparation qui, en fait, n'était pas justifiée. Il n'y avait pas de raison de sanctionner qui que ce soit. Malgré ça, le docteur Amami a continué à faire monter encore le problème à des plus hauts niveaux, à des plus hautes sphères. Et c'est là où on est arrivé au niveau du CNG, du Centre National de Gestion, aussi à ce niveau de lanceur d'alerte qui est attribué par un défenseur des droits. Enfin, c'est vraiment des instances qui sont nationales, qui, elles, n'ont pas pris en considération l'ensemble du dossier et surtout qui n'ont jamais venu voir sur place exactement de quoi il en retournait. Ce sont ces instances nationales qui, finalement, ont réhabilité le docteur Amami et qui lui ont donné plus ou moins raison sur sa procédure et qui, du coup, mettent l'ensemble des instances de l'hôpital de Gap, de sa direction et même de l'ARS régionale, en position de fautif.
Ce statut de lanceur d'alerte, est-ce qu'il est justifié?
À notre avis, non, parce qu'il se base sur des données qui sont extrêmement parcellaires, et sur des données qui sont fausses.
Est-ce que pour être lanceur d'alerte, il ne faut pas ne pas avoir de parti pris dans une affaire?
Exactement, et pourtant, ça nous semble être le cas pour le docteur Amami. Comme on vous l'a expliqué, l'origine, c'est vraiment un conflit de personnes, donc on estime, nous, que c'est par désir de vengeance.
Je voudrais revenir sur sa charte de fonctionnement. Il avait mis « Il n'est pas question de poursuivre la pratique de chirurgie noble pour les uns, chirurgie des ongles incarnés et du pus pour les autres. La période des divas et des électrons libres de la chirurgie est révolue. Non au chantage à l'hyperactivité.
» Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y avait des praticiens dans cet hôpital qui faisaient tout. Vous savez qu'on est quand même un hôpital qui est en déficit, à qui ça fait une dizaine d'années qu'on demande d'être plus performant, d'être plus productif. Ce qu'on a fait, au final, les personnes qui ont créé toute cette activité aujourd'hui sont finalement visées par ce type de charte, par une personne qui, lui, en avait peu d'activité.
Les praticiens, en dehors du docteur Amami, du service d'orthopédie, étaient des praticiens qui avaient vraiment des domaines d'excellence. Des domaines d'excellence dans lesquels ils étaient particulièrement pointus.
Et aujourd'hui, cette excellence est en train de partir. Vous avez commencé l'interview en me disant « nous sommes des missionnaires ».
Nous avons démissionné de nos fonctions administratives lorsqu'il a été question que le docteur Amami revienne dans l'hôpital, parce qu'on estime qu'on ne peut pas assumer ces fonctions-là avec quelqu'un qui a une immunité et qui revient. C'était pour nous inacceptable. Pour ma part également, je suis sur le départ de l'hôpital.
Vous êtes sur le départ, c'est-à-dire à quel moment vous pensez que là, ce sera fini pour vous, l'hôpital?
Si le docteur Amami reste à l'hôpital, je ne pourrai pas y travailler. Je suis en arrêt maladie depuis... maintenant plus de 15 jours, parce que je n'envisage pas de pouvoir travailler dans le même hôpital que lui.
Qui peut être le juge de paix aujourd'hui? Vous l'avez écrit, le collectif l'a écrit, à un moment, le jeu de l'apaisement était possible. Est-ce que l'apaisement est encore possible pour que ces vagues de démission et d'arrêt maladie s'arrêtent?
Non.
Non.
Honnêtement, il y a... Non. Si, la seule possibilité, c'est l'écartement du docteur Amami de cet hôpital. Il y a une mission de conciliation qui est prévue là, qui a été adressé par la présidente du CNG, mais dont, de toute manière, nous ne voyons pas de terrain d'entente possible. De toute manière, le docteur Amami l'avait dit lui-même. Il avait dit démission ou soumission. Eh bien, écoutez, nous, on va, de toute manière, si notre centre national lui donne raison, effectivement, soumission, c'est pas possible. Et démission, ça reste un petit peu notre seule possibilité.
Et puis, vous conviendrez que c'est quand même pas à nous de trouver une solution à un problème qu'on dénonce depuis plusieurs années. On a un ministère de la Santé, une agence régionale de santé. On n'est pas compétent pour ça. Hein. Moi, si vous me demandez comment opérer, je peux vous expliquer des choses. Mais là, moi, c'est au-delà de nos possibilités, quoi. C'est pas à nous de proposer des solutions, quand même.
Il y a que votre conseil aujourd'hui qui peut être décisionnaire et le conseil de l'ordre.
Peut-être le conseil de l'ordre. On peut pas le dire pour l'instant, oui.
Comment se porte le service justement d'orthopédie? Tout le monde a démissionné. Qui le tient?
Actuellement, le service d'orthopédie tourne avec le docteur Amami et deux intérimaires. Le docteur Craviari a, je crois, repris le travail pour quelques jours, mais il ne fait que des consultations de patients post-opératoires de suivi, parce que comme il est sur le départ, il ne veut pas, bien sûr, reprogrammer des interventions dont il ne pourrait assumer les suites. Par exemple, sur le mois d'avril, le planning du service d'orthopédie montre que le docteur Amami a pris 3 astreintes sur le mois. Les restes des astreintes des urgences sont assurées par les deux intérimaires.
C'est aussi une mise en danger de la continuité des soins, de la traumatologie.
On en est conscient et on l'a dénoncé depuis le début et c'était notre inquiétude dès le départ. C'est-à-dire qu'on sait effectivement que son retour ou le départ de plusieurs praticiens, et particulièrement les praticiens moteurs de l'activité de cet hôpital, pouvaient entraîner effectivement une rupture de la qualité des soins et aussi de la prise en charge de la permanence des soins. Maintenant, nous, ça fait 3 ans qu'on dit que ça va arriver, qu'on demande que soit tranchée cette affaire et que soient prises les bonnes décisions, et nous ne pouvons malheureusement que constater notre échec à l'heure actuelle sur les décisions prises.
Tout à fait. Moi, je peux pas. Hein. Je suis pas un guerrier. Hein. Ce que je veux, c'est travailler tranquillement, en paix, en sérénité. Là, je l'imagine pas.
Il est très clair que je ne pourrai pas travailler avec lui et je quitterai cet hôpital. Et ça me. En fait, le collectif et ce qu'on dénonce aujourd'hui, c'est pas notre sauvegarde personnelle. Moi, du travail, je vais en trouver facilement. Le docteur Adjé aussi. Nous, ce qu'on essaye de faire comprendre à la population, c'est qu'il faut sauver cet hôpital. Tout ce travail qu'on a pu faire toutes ces années, déjà, là, de toute manière, il a cassé le service d'orthopédie, il est cassé, et c'est définitif, ça. Ça va prendre du temps à remonter. Mais le reste de l'hôpital peut être menacé si les décisions ne sont pas prises.
Merci beaucoup, messieurs. Un entretien donc à retrouver dans quelques instants sur alpe1.com, onglet podcast. Merci.